Voilà, merci beaucoup d'être venu cet après-midi. Et donc, je vais vous présenter cette conférence qui a été créée à l'origine par un Suisse qui s'appelait John Alexander. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Voilà. Et donc, j'ai eu le privilège de le voir en direct hein, dans les années 80. Et ensuite, il a édité parce que c'était fait avec des diapositives, des petites diapositives, vous savez comme on faisait autrefois. Mais elles ne marchent plus du tout, les diapositives. Hein, donc, j'étais obligé de refaire toutes les images avec des sites qui s'appellent Wikimedia Commons. Et donc, ça permet de d'avoir des images gratuitement pour l'enseignement et libre de droit, c'est-à-dire que on paye pas, mais mais on fait pas de bénéfices. Voilà. Et donc, je vais vous présenter tout ça. Alors, pourquoi ces conférences? Eh bien, c'est dans le cadre de notre exposition en Normandie. Nous avons créé une exposition biblique sur 16 roll-ups avec 250 Bibles anciennes et plein d'autres artefacts qu'on présente aux gens, la Bible sur microfilm, plein de choses. Et ça suscite de l'intérêt en Normandie. On est allé jusque dans le Lot-et-Garonne, on est allé à Troyes dans l'Aube, on est allé ça me reviendra, et même à Toulon. Voilà, donc on a amené à l'église de Toulon Ouest quelques roll-ups et quelques bibles aussi de notre exposition, et donc ils vous en inviteront à le voir fin mai, hein, il y aura des choses à voir fin mai, et donc retenez ça déjà. Et donc c'est 4 biblios, Patrick Pélesco est le président de cette association, et c'est avec ça que nous faisons cette expo Bible, et ça c'est la conférence que nous faisons. Alors à chaque fois qu'on fait une expo d'une dizaine de jours, on fait une conférence le vendredi ou le samedi soir, et ensuite les gens souvent reviennent au culte le lendemain. Hein. Donc c'est le but de l'exposition, c'est d'aider les églises locales hein, à faire connaître la parole de Dieu là où elles sont. Hein. Et puis souvent, quand on fait l'exposition, on fait le vernissage au début, et on a souvent le maire ou le député ou le président du conseil général qui viennent. Hein, et donc, ça permet de rencontrer aussi les autorités locales et de faire connaître les églises et la parole de Dieu là où on se trouve. Et puis, des fois, les expos sont dans un lieu public, donc syndicat d'initiative, bibliothèque municipale, des salles municipales, etc. Donc là, c'est plus dans le cadre d'une église, c'est le cadre laïque, hein, et donc ça se passe aussi très très bien hein, dans ce cadre-là. Donc priez pour nous et nos expositions en Normandie. Alors ici, c'est l'histoire extraordinaire de la Bible. Alors je vais rester debout pour l'instant et après je devrais m'asseoir parce que j'ai dépassé les 60 ans, alors ça commence à... Et donc, voilà, c'est l'histoire extraordinaire de la Bible. Et on commence avec les manuscrits de la Mer Morte. Hein. Et donc, ça c'est pas une bonne idée. Voilà. Tout au nord de la Mer Morte, vous avez les grottes de Qumran. Et, je sais ce que je... Non, ma souris veut pas marcher, donc je vais m'asseoir et le faire avec les doigts. Bon. C'est des choses qui arrivent. Voilà, là ça marche. Et donc là, à Qumran, il y a toute une communauté religieuse qui vivait au temps de Christ. Et à cette époque-là, ils ont caché dans des grottes des manuscrits dans des jarres. Et ça, c'est la première grotte où on a trouvé un manuscrit. Hein. Et donc, c'est des Bédouins qui cherchaient une chèvre qui s'était égarée. et elle est tombée dans la grotte, et donc ils sont rentrés voir un petit peu ce qu'ils trouvaient, ils ont trouvé la chèvre, et puis ils ont trouvé des vieux, des jarres comme ça, alors ils se sont dit, oh là là, c'est un trésor, et malheureusement pour eux, il n'y avait que des vieux papiers, des vieux papyrus, mais ils en ont pris un peu, ils ont dit, peut-être ça peut avoir un peu de valeur. Donc ils les ont amenés à c'est eux, hein, ils étaient plus jeunes, c'était des jeunes bédouins, et donc ils les ont amenés à un antiquaire de Bethléem, et l'antiquaire ensuite les a amenés à l'université de Jérusalem, parce qu'il a vu que c'était des manuscrits très anciens, ils sont écrits en hébreu, sans point voyelle, c'est-à-dire qu'ils datent d'il y a plus de 1700 ans, et donc ils l'ont montré à l'université de Jérusalem, et là les spécialistes ont tout de suite dit, attention, ça a une très grande valeur, il faut que vous nous montriez où vous avez trouvé ça, on va en chercher d'autres, et ils ont appelé des spécialistes de New York, de Paris, de Berlin, là où il y avait des gens, des érudits qui connaissaient parfaitement l'hébreu, et pour... et trouver vraiment ce que c'était ces manuscrits. Donc ils sont allés, certains étaient vraiment cachés juste comme ça, il fallait les nettoyer et ensuite les ouvrir, faut les mouiller et les ouvrir un quart de rouleau par jour. Hein. Et donc ça leur a pris des années pour tous les ouvrir, mais finalement ils ont réussi à tous les ouvrir. Et le livre d'Ésaïe complet se trouve ici au musée du livre de Jérusalem. Et donc cette forme-là, c'est une couverture de jarre, et à l'intérieur, vous avez le livre d'Ésaïe complet, qui est dans cette forme de coupole. Et quand il y a une guerre, c'est-à-dire en ce moment, eh bien, on peut plus visiter le musée, et cette chose va sous la terre, carrément, pour protéger, parce que c'est le plus grand trésor du peuple d'Israël. Alors, à force de regarder, ils se sont aperçus que ces manuscrits datent de 200 ans avant Jésus-Christ, pas après, avant Jésus-Christ, et même maintenant, ils sont en train de dire peut-être même 300 ans avant Jésus-Christ, hein. Et ils se sont conservés grâce à la sécheresse et absolue de ce désert. Si vous aviez ça dans votre jardin, eh bien, en 10 ans, il resterait plus rien, hein. Mais dans un désert, comme les papyrus en Égypte, ça se garde à cause de la sécheresse absolue du climat. Et donc, c'est le livre d'Ésaïe en entier qui est là-dedans. Et donc, ils ont vérifié tous les textes que nous avons dans notre Bible, et notamment Ésaïe 53. Or, qu'est-ce qui est écrit en Ésaïe 53? Eh oui, ça décrit la vie et la souffrance de Jésus-Christ. Hein. Or, ces choses ont été écrites été écrites 500 ans avant, mais les manuscrits datent de 300 ans avant. Donc, c'est la preuve que ce sont vraiment des prophéties. Alors qu'au 19e siècle, les scientifiques, entre guillemets, disaient « Oh là là, oui, mais c'est pas possible ». Et donc, ce sont les Juifs qui se sont amusés à faire des réécritures au Moyen-Âge pour se mettre en valeur, hein, pour faire croire qu'il y avait de la prophétie. Mais ils se sont aperçus que c'était de vraies prophéties, et que ça montre le caractère surnaturel et miraculeux de la parole de Dieu. Hein. Et donc, on a un rouleau, vous voyez celui de droite, qui est consacré à ça, et là c'en est un autre qui est consacré à l'écriture cunéiforme, on verra ça un peu plus tard. Hein. Mais déjà, ça c'est la première découverte qui, en 1947, qui a relancé la foi dans l'authenticité des Écritures, et rouleau d'Ésaïe découvert à Qumran. Voilà. Et si vous allez là-bas, vous pouvez en acheter un petit morceau, une copie évidemment. Ça coûte assez cher, mais voilà. Voilà. Et l'Institut biblique est allé là-bas en 2020, et c'était juste avant le Covid, donc ils ont pu visiter. Et donc nous avons dans cette région ici, voyez le golfe arabo-persique en bas à droite. Qu'est-ce qu'il y a juste en dessous? Je vais me lever parce que... Qu'est-ce qu'il y a juste en dessous ici? Le non, pas le golfe, le détroit d'Ormuz. On en parle tous les jours. Eh oui, eh oui, eh oui. Et donc là, vous êtes à l'origine ici de la civilisation. Même notre civilisation a pris son origine ici. Et donc, quand on fait les expos bibles, on explique aux gens que la parole de Dieu est née dans cette région et qui est à l'origine de la civilisation. Les deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate, vont jusqu'à la ville là qui s'appelle Bassora, hein, et c'est là, Bassora, vous remontez un peu, vous avez la ville d'Abraham, Ur de Chaldée, vous avez Bagdad, vous avez Babylone, etc. Tout ça, c'est l'origine de la civilisation. Et comme vous vous en souvenez sûrement très bien, toute cette région là qui va de là, en remontant les fleuves et en descendant jusqu'à l'Égypte et qui a une forme de croissant, s'appelle le croissant fertile, bravo, et c'est l'origine de la civilisation. Et donc, la Bible est née dans cette région-là, et c'est là que sont apparues toutes les écritures différentes. Alors, on va parler de l'histoire de l'origine des écritures. Alors, programme de sixième, j'espère que vous avez tous votre programme de sixième en mémoire, hein. c'est là que ça s'est passé, hein. Et donc, ça commence avec ce monsieur, qui vient de Ur de Chaldée et que moi j'appelle Abraham, hein, mais c'est pas lui évidemment, mais c'est quelqu'un de son époque, hein. Et donc Abraham s'habillait comme ça et il a les yeux tout bleus, lapis lazuli, hein, et donc c'est quelqu'un qui remonte à 3000 ans avant Jésus-Christ, hein. Et on a c'est une petite stèle qui est au Louvre, hein. Et dans une pièce à côté vous avez ce monsieur qui s'appelle Goudéa et qui, lui, était le roi de Lagash, qui est une ville qui est là aussi, juste à côté, et qui est à l'endroit, comme on voyait sur la carte, où le Tigre et l'Euphrate se rejoignent. C'est pour ça qu'il y a deux fleuves, deux cours d'eau qui rentrent dans son vase. Hein, voilà. Et donc, c'est l'origine de la civilisation. Et vous voyez que sur sa robe, il est écrit en écriture cunéiforme. Hein. Et donc, c'est les plus anciennes écritures de l'humanité. Avec en même temps en Égypte l'apparition des hiéroglyphes, hein. Et cette tablette-ci, si vous allez au musée du Louvre, dans la partie antiquité orientale, pavillon Saclair, vous verrez que c'est la toute première, la plus ancienne tablette écrite que nous ayons. Alors maintenant, les Chinois nous disent qu'ils en ont une plus ancienne, mais vous savez qu'on peut toujours faire confiance, on ne sait pas. En tout cas, c'est celle-ci pour l'instant. Et donc, alors vous voyez, c'est pas encore de l'écriture, hein. C'est peut-être la comptabilité, c'est un peu de l'art, etc. Et donc, c'est l'origine de l'écriture et de l'alphabet, hein. Ça, c'est une pierre de fondation qu'on mettait dans les en dessous des temples et des bâtiments publics et qui raconte qui est-ce qui a payé, qui est-ce qui a ordonné, qui est-ce qui a construit la construction de ce temple. Et là aussi, il y a de l'écriture un peu partout qui nous donne les noms des différents personnages. Et donc, en même temps, en Égypte, est apparue cette écriture sacrée, les hiéroglyphes, hein. Et donc, qui ont été déchiffrés par un Français célèbre qui s'appelle Champollion. Voilà, hein. Et donc, c'est nous, à l'Expo Bible, on a la pierre de Rosette, hein, on montre avec les trois langues. D'ailleurs, je l'ai ici. Voilà, hein, vous avez le hiéroglyphe en haut, le démotique au milieu, et en bas, c'est le grec oncial, c'est des majuscules. Et donc, c'est grâce à ça, en travaillant pendant des heures et des heures, il s'est abîmé la santé, mais il a réussi à découvrir le sens de ces écritures hiéroglyphique. Alors, ça, c'en est un peu le sens, c'est pas exactement ça, mais déjà, ça vous donne une idée. Mais ce n'est pas un alphabet, hein, ce sont des sons, hein. Et donc, c'est comme si c'était des syllabes, hein, voilà. Et donc, c'est pour ça que c'était un peu compliqué à comprendre, mais il a réussi à comprendre ces choses-là, hein. Et donc, ici, par exemple, vous avez oui, j'ai pas de flèche là. Si, là, avec ça, voilà. Vous voyez ce truc rouge là? Eh bien, c'est un serpent. Et là, vous en avez un là aussi. Hein. Et c'est avec ça qu'on fait les deux S de Ramsès. Hein. Et donc, c'est en trouvant ces mots-là qu'il a réussi à déchiffrer l'écriture. Et donc, voilà un peu de cunéiforme. Hein. Donc, là, c'est une tablette qui était en argile. Et avec une sorte de clou, on fait la forme d'une écriture avec ça. Et ensuite on la fait cuire, hein, et ça fait quelque chose qui dure des milliers d'années, hein, puisque celle-ci vient de Babylone, et elle a 4500 ans. Et on peut lire encore ce qui est écrit dessus. Hein. Et c'est grâce à cet anglais, là, donc là je vous ai mis notre roll-up directement, Monsieur Henry Rawlinson, qui était gouverneur, plutôt ambassadeur dans cette région-là entre l'Iran et l'Irak au XIXe siècle, et à force de chercher, même façon que Champollion, il a réussi à déchiffrer les caractères cunéiformes, et grâce à ça, on peut lire le cylindre de Cyrus que vous avez en dessous, et Cyrus qui a ordonné que les enfants d'Israël retournent dans leur pays. Et donc là aussi, c'est une confirmation des textes bibliques, puisque Ésaïe avait annoncé 300 ans avant, Daniel 200 ans avant, que un certain Cyrus, le Mède, qui serait aujourd'hui considéré comme un Perse, eh bien, ordonnait au peuple de retourner chez eux. Et donc, c'est quelque chose de tout à fait remarquable. Alors, on revient ici à Ur de Chaldée. Et donc là, vous avez la ziggourate. Hein, vous voyez la ziggourate, là, qui est, je vous mets la souris dessus, là, voilà, qui a été, les recherches ont été faites par l'école française du Louvre, hein, Monsieur Parot, à l'époque. Hein, et donc, c'était il y a un peu plus de 50 ans. Hein, oula, même, oui, 70, je dirais. Et donc, mais enfin, c'est pour ça qu'au Louvre, on a énormément d'artefacts qui viennent d'Ur de Chaldée. Et c'est là où vivait Abraham. Mais alors, qu'est-ce qu'on adorait? Quelle était la religion à Ur de Chaldée? Hein? Le soleil, la lune, Marduk, Tammuz, etc. Et Abraham, lui, il n'a pas voulu suivre toutes ces religions qui étaient à la mode. Il a dit, j'adore le seul vrai Dieu qui est invisible, le Dieu de Noé, le Dieu de Mathusalem, hein, et de ces gens-là. Et donc, Dieu lui a dit, mais si tu veux m'adorer, si tu veux me servir, tu peux pas rester dans cette ville, parce que c'était une ville belle, moderne, avancée, et sa vie aurait été une constante conflit et contradiction. Donc Dieu lui a dit, allez, tu pars. Tu vas suivre le chemin que je te montrerai et tu iras dans le pays où je t'enverrai. Donc il a quitté ces beaux édifices-là, ces ziggourates hein, de Ur de Chaldée, et il est parti un peu plus loin dans son voyage. Voilà. Et en même temps, donc vous avez vu les tablettes d'argile, hein, mais est-ce qu'on aurait pu écrire la Bible sur des tablettes d'argile? Hein? Mais comment vous les auriez transportées? Hein, c'est par les cigognes, voilà. Trop lourd, trop fragile, voilà. Et donc jusqu'à Moïse, la Bible existait uniquement par tradition orale, hein, se répétait. Et c'est pour ça que ça rime. Vous avez des histoires qui sont lues et puis ça se répète. Hein, comme ça, on les apprend par cœur, voilà. Et voilà que les Égyptiens, grâce au papyrus, ont réussi à mettre au point ce papier, on va dire, hein, qui est du papyrus, en le coupant, en le croisant, en le faisant sécher, en mettant, il faut le presser aussi. Et aujourd'hui, si vous allez en Égypte, vous pouvez toujours acheter du papyrus. Hein, ils vendent ça pour les touristes, mais c'est fait comme les anciens Égyptiens le faisaient. Hein. Et donc, vous pouvez en faire des rouleaux et des parchemins, enfin pas des parchemins, mais des rouleaux. Et écrire dessus. Et à Byblos, là, il y avait les moyens d'améliorer la qualité du papyrus et d'écrire dessus. Et donc, c'est un certain Moïse qui vivait à la cour de Pharaon, 40 ans à la cour de Pharaon. Et c'est là où il y avait les scribes. Hein, une des plus célèbres statues au Louvre, hein, c'est le scribe accroupi. Il est même plus grand que ça. Hein. Et donc, il a appris l'art de l'écriture. Il a lui-même mis au point l'alphabet hébreu, parce qu'on n'en a aucune trace avant Moïse. Hein. Donc c'est lui qui a créé l'alphabet hébreu et qui s'est mis à écrire l'histoire des enfants d'Israël. Donc la Genèse, c'est toute l'histoire qu'il y avait avant lui. Et puis à partir de l'Exode, c'est son histoire et celle du peuple qui a quitté le pays. Hein. Donc c'est grâce à lui. Et est-ce qu'il a, où est-ce qu'il a trouvé le temps d'écrire tout ça? Eh oui, 40 ans dans le désert, hein, donc ça va, il n'y a pas beaucoup de distractions. Hein. Donc il a écrit tout ça dans le désert. Hein, voilà. Et ici, c'est à Byblos hein, qu'on a mis au point les différentes techniques de reliure, etc. Et donc Byblos veut dire le livre, voilà. Et la Bible a toujours été considérée comme le livre. Dans l'histoire de l'Antiquité, c'est le livre. Hein. Et donc même 300 ans avant Jésus-Christ, hein, il y avait un pharaon d'Égypte qui était d'origine grecque, Ptolémée Philadelphe, et il a demandé qu'on traduise la Bible d'hébreu en grec, parce qu'il voulait faire la bibliothèque d'Alexandrie avec tous les livres du monde. Hein. Et les Juifs ont dit, pas question, on ne traduit pas notre livre. Et il a dit, il n'y a pas de problème. Il les a enfermés à clé, et il a dit, vous ne sortirez de là que votre livre traduit. Alors, vous savez qu'ils sont têtus, mais ils l'ont quand même traduit. Et donc, aujourd'hui, on a la Bible en grec qui date de 300 ans avant Jésus-Christ, qu'on appelle la version des 70. Moi, je l'ai dans mon ordinateur, ici, hein, voilà. Et c'est la première traduction en grec de tout l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament n'était pas encore écrit, hein, de tout l'Ancien Testament. Et c'est eux qui ont mis au point l'ordre des livres avait déjà été mis au point un peu plus loin, on va voir. Le prophète qui l'a fait, hein, Esdras. Mais eux, ils ont mis au point les livres canoniques et non canoniques, qu'ils ont appelés deutérocanoniques, et que nous avons dans notre Bible, et c'est plus tard les catholiques au Concile de Trente qui ont inclus ces livres deutérocanoniques dans la Bible, parce que ça confortait leur doctrine à eux. Hein, voilà. Mais ça date de 300 ans avant Jésus-Christ, que les Juifs ont traduit ces livres, mais en disant, voilà, ce ne sont pas des livres bibliques, ce sont des livres en dehors. Voilà. Donc ça remonte à cette époque-là, c'est très ancien. Et donc les Égyptiens, grâce à ces papyrus, avaient pu faire le livre des morts, hein. Vous en avez deux au Louvre, et pendant des années on pouvait plus les voir, et maintenant de nouveau vous pouvez les voir. Donc je vous encourage à aller au Louvre pour voir les papyrus égyptiens, ils refont l'histoire des papyrus, et ils montrent les deux livres aux morts, des morts complets hein, qu'ils ont au Louvre et qui sont tout à fait remarquables. Voilà. Ils les avaient cachés pendant quelques années parce qu'ils les avaient obtenus par des méthodes pas tout à fait légales. Voilà. Et donc, mais apparemment, ils ont fait un arrangement avec les Égyptiens et ils peuvent les montrer de nouveau. Voilà. Parce que la plupart des statues qui sont au Louvre, les statues égyptiennes, c'est Champollion qui les a achetées. Donc, tant que si vous achetez, ça va. Mais les papyrus, et il y a un autre, comment ça s'appelle là? J'ai oublié. Il y a un autre qui est en discussion en ce moment. Et donc, c'est comme ça qu'a été inventé en Phénicie notre alphabet à nous, l'alphabet cursif. Alors, la première lettre, c'est quoi? Aleph, voilà. Hein. Et qu'est-ce que c'est cette lettre? Oui, alpha, ça c'est les Grecs qui l'ont appelé alpha. Aleph, les Égyptiens, nous on l'appelle A. Mais qu'est-ce que ça représente cette lettre? Hein? Non. Regardez là, essayez d'imaginer. Voilà, il y a un triangle avec deux barres qui dépassent. Qu'est-ce que c'est? Hein? C'est une tête de bœuf. Eh oui. Parce que dans leur langue, le bœuf se disait alf. Voilà. Et donc, ils ont fait une tête de bœuf qui est le A. Et nous, on l'a juste tourné comme ça. Hein? Et donc, le A majuscule que nous utilisons, qu'on enseigne à l'école, il remonte là aussi quasiment à 3000 ans avant Jésus-Christ, c'est toujours la même lettre, et c'est une tête de bœuf, voilà. Et la plupart des lettres, ce sont des objets de la vie quotidienne à cette époque-là, je ne vais pas vous faire le détail, hein. Mais ça c'est l'histoire de l'alphabet, ça fait partie de ce que les profs sont censés vous enseigner à l'école. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas le temps de tout faire. Hein. Le programme est lourd. Hein. Alors moi, je préférerais qu'ils se concentrent sur l'histoire et la géographie, mais d'autres parents veulent qu'ils se concentrent sur les mathématiques et la littérature et la physique. Hein. Voilà, mais on peut pas gagner à tous les coups. Hein. Mais en tout cas, l'histoire de l'alphabet et de l'écriture, ça fait partie de l'éducation. Et donc, c'est comme ça qu'on explique ces choses. Voilà. Et donc voilà une écriture démotique, là aussi, c'est de l'égyptien cursif, voilà. Et là aussi c'est au Louvre, c'est le plus ancien alphabet que l'on connaisse, hein, ougarite, hein, donc parce que l'écriture cunéiforme, elle est utilisée dans 5 langues différentes. Hein. Donc non seulement il faut connaître l'alphabet, mais en plus les langues auxquelles ça a fait référence, hein, voilà. Et donc... Champollion, lui, il les connaissait. Voilà. Nous, pas toujours. Et donc, ici, c'est le delta hein, du Sinaï. Hein, et c'est de là, en quittant l'Égypte, que le peuple d'Israël est parti dans le désert. Et c'est de là qu'est l'origine de nos saintes écritures et qui remontent. Ils ont remonté ensuite, 40 ans plus tard, en Israël. Et en passant au mont Sinaï, qu'est-ce qui s'est passé? Hein, le don de la loi, hein, les 10 commandements, et donc ça a été quelque chose d'extraordinaire qui a été donné au peuple juif. Qu'est-ce que nous fêtons à Pentecôte? La venue du Saint-Esprit. Mais les juifs aussi ont la Pentecôte. Qu'est-ce qu'ils fêtent à Pentecôte? Il n'y a pas de juifs ici. Non, le don de la loi. Voilà, c'est après qu'ils fêtent ça, absolument. C'est à Soukhot qu'on fête la sortie d'Égypte. Voilà. Mais le don de la loi, et donc c'est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est une des toutes premières lois de l'humanité, hein, les 10 commandements. Hein. Et la loi des 10 commandements, la phrase que tout le monde connaît, c'est « Tu ne tueras pas hein, ». Tout le monde le sait, hein, « Tu ne tueras pas ». Et à tel point que c'est même pas écrit dans le code civil que c'est interdit de tuer. Parce que c'est évident pour tout le monde, tu ne tueras pas. Voilà. Eh bien, ça a été donné sur le mont Sinaï. Voilà. Alors, on continue. Voilà, j'ai plein de choses à expliquer, mais voilà. J'ai oublié de vous dire, c'est une conférence qui dure 4 heures, et donc je résume. Voilà. Hein? Alors, est-ce que vous connaissez ça, Gérard? Un petit peu, hein, voilà. Voilà. Il a étudié en long, en large et en travers. Voilà. Et donc, voilà le peuple qui était dans le désert, hein, et c'est là que, ils ont commencé à devenir un peuple qui appartient à Dieu et qui marche avec Dieu. Ça n'a pas été parfait, hein. Il y a eu plein de problèmes. Mais, c'est le début, hein, voilà. Et ensuite, ils sont passer dans la terre promise en traversant le Jourdain, peut-être à cet endroit-là, et ils sont entrés. Les murs de Jéricho sont tombés, pas tout seul, non. Ben si, c'est le Seigneur qui les a fait tomber, le Seigneur, absolument. Voilà, ils ont envahi plusieurs endroits. Alors là, je vais accélérer parce qu'on n'a pas le temps de tout voir. Donc, mais juste Esdras, c'est lui qui a mis au point le canon de l'Ancien Testament. Et c'est quoi le canon?
C'est la base.
Ouais. Voilà, l'ordre des livres. Et donc les Juifs disent Talmud, prophète, et je ne sais plus quel est le troisième déjà. Et donc c'est lui qui a mis ça au point. Et les Juifs ont toujours dans leur synagogue ces rouleaux de la Torah. Et nous on l'a l'Expo Bible aussi, on a la Torah. Et on le montre aux gens, on leur dit de pas toucher parce que pour les juifs, c'est sacré, hein, voilà. Et ici, vous savez que dans 2 semaines, c'est Pâques, hein. Et ici, on est au mont Garizim, hein. Et au mont Garizim, eh bien, il reste encore des Samaritains. Et eux aussi vont faire la fête de Pâques. Et comme ils ont encore, voyez, les restes d'un temple, ils vont sacrifier l'agneau de Pâques comme c'est écrit dans la Bible. Et donc, de temps en temps, les journalistes juifs vont là pour Pâques, pour voir comment c'était à l'époque du temple, mais depuis la destruction du temple, ils n'ont plus le droit de sacrifier un agneau pour Pâques. Hein. Donc c'est quelque chose de tout à fait. Et le Pentateuque samaritain, hein, ça c'est un prêtre qui est maintenant très très vieux à ma gauche là. Hein. Et ce prêtre est descendant d'Aaron. Hein. Les Juifs ont fait des recherches génétiques et ils ont trouvé qu'il descendait d'Aaron. Et c'est un des fils d'Aaron, qui est, enfin des arrière-petits-fils, qui a été envoyé au temps de la captivité pour amener un rouleau de la loi aux Samaritains qui, ils avaient un problème, c'est que les lions les attaquaient tout le temps. Et donc, ils ont dit, il faut qu'on apprenne à adorer le Dieu de ce pays. Et donc, le roi leur a envoyé un lévite avec le rouleau de la loi. Et eux aussi ont recopié patiemment et soigneusement ce rouleau depuis donc 700 ans avant Jésus-Christ. Et il y a quelques dizaines d'années, les Juifs et les Samaritains ont comparé leur Pentateuque, et bien c'est le même. Et donc, des deux côtés, hein, ils ont gardé la fidélité au texte sacré. Vous savez, quand les Juifs copient le texte, hein, ils ont une énorme table. Chaque fois qu'il y a le nom de Dieu, ils prennent un bain. Ils comptent le nombre de A, le nombre de B, le nombre de C dans chaque colonne pour être sûr que la copie est parfaite. Et s'ils se trompent, ils brûlent le manuscrit. Voilà. Et dans chaque synagogue, vous avez un rouleau comme ça de la Torah. Et ça coûte une fortune parce que ça a été fait dans ces conditions-là, entièrement à la main. Voilà. Et donc, ils vont lever la Torah, encore une fois, là, à Pâques, pour se fêter le don de la loi. Voilà. Alors, j'accélère un peu. Et on se retrouve bientôt au Nouveau Testament. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit-là dans le Nouveau Testament? Hein? Ah oui, 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 c'est Bethléem. Et sous la flèche, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Les bergers étaient là où ils ont entendu l'ange, et sous la flèche, d'après la tradition, c'est là que Jésus est né. Voilà. Alors on n'est pas sûr, hein, mais si vous allez à Bethléem, la basilique de la Nativité se trouve là. Voilà. Et donc c'est le début du christianisme, hein, autour du lac de Galilée, hein, et c'est là que Jésus a enseigné pendant 3 ans et demi. Et ici, c'est une photo qui est prise au printemps, donc à peu près à cette période-là, dans le jardin de Gethsémané, et où il y a ces coquelicots qui rappellent le sang de Christ, hein, qui a coulé à ce moment-là, et où il a prié et accepté de mourir pour nos péchés au milieu des oliviers de Gethsémané. Et donc, et puis il a été crucifié, alors ça c'est le mont du crâne, hein, à Jérusalem. Alors, on ne sait pas si c'est dessus, devant, etc., mais c'était dans cette région-là que Jésus a été crucifié, à Jérusalem. Voilà. Et juste en face, à peu près, vous avez ce tombeau, et donc, on pense, c'est pas sûr, hein, mais on pense que c'est celui-là, le tombeau, en tout cas, il est vide, et chaque année à Pâques, vous avez cet endroit qui est plein de pèlerins, qui viennent célébrer au lever du soleil, hein, la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et vous allez dedans et vous constatez le tombeau est vide. Hein, et donc le Seigneur est vraiment ressuscité. Voilà la pierre. Là voilà l'emplacement vide. Voilà. Ça c'est le jardin de Gethsémané. Certains des arbres là, des oliviers, ont plus de 1000 ans. Hein. Et certains espèrent que même ils ont 2000 ans qui datent du temps de Jésus, mais là on peut pas. Il faudrait les couper pour savoir. Hein, on va pas les couper. La parole de Dieu a commencé à être écrite à ce moment-là, le Nouveau Testament, pas en hébreu, mais en grec. Alors pourquoi le grec? Parce que c'était la langue la plus parlée au monde. Hein. Et donc, Jésus et ses apôtres ne voulaient pas que l'évangile soit réservé aux Juifs, qui eux parlaient araméen. Ils voulaient que ce soit pour le monde entier. Hein. Donc, dès le début, ça a été écrit en grec. Hein. c'était pas facile pour les apôtres parce que Pierre, par exemple, ne parlait pas le grec. Donc, il a dû apprendre et il avait un scribe qui écrivait avec lui, donc ils discutaient et il racontait l'histoire de Jésus, hein, et puis il écrivait en grec, voilà, pour que le plus grand nombre puisse connaître l'évangile, les épîtres de Paul. Paul, lui, savait écrire le grec, pas de problème, mais c'est comme ça qu'a été écrit le Nouveau Testament. Hein. Donc, et ça, c'est des textes très anciens, vous remarquez que c'est du grec majuscule qu'on appelle écriture onciale, et on sait aussi que c'est un manuscrit très ancien parce que il est écrit tout attaché. Et donc les plus anciens étaient tout attachés pour que les Romains ne puissent pas savoir ce que c'était. S'ils avaient trouvé que c'était un évangile, ils l'auraient brûlé. Mais comme ils pouvaient pas savoir, eh ben ils laissaient passer. Voilà. Donc il y a que les chrétiens qui pouvaient lire ces textes. Voilà. Et donc à Jérusalem, c'est de là qu'est partie évidemment la première église. Mais très vite, avec la scène, avec le sacrifice de Jésus, hein, mais très vite l'évangile a été prévu pour être envoyé au monde entier. Hein. Mais si l'évangile avait été envoyé au monde entier et que Jésus était revenu du temps de Paul, qu'est-ce qui aurait manqué dans le monde ? Vous l'avez devant vous. Hein. Hein, voilà, tous les continents non connus. Les Amériques étaient inconnues hein, jusqu'à bien plus tard. Hein. Et puis vous aviez la Polynésie, plein d'autres îles, etc., où personne n'avait découvert ces îles. Donc le but, c'est que l'Évangile soit envoyé jusque de Jérusalem, mais jusqu'aux extrémités de la terre. Hein. Et donc, il a fallu attendre des siècles que les découvertes se fassent et qu'on puisse amener l'évangile à l'autre bout du monde. Donc, c'est pour ça que ça a pris si longtemps, parce que Paul aurait bien voulu que ça se fasse de son vivant, mais c'était pas possible, hein, voilà. Et ici, c'est le temple de Jérusalem, hein, c'est une aquarelle qui date d'il y a 120 ans, c'est un Anglais qui l'a faite. Et qu'est-ce que vous remarquez ? Il y a le dôme du rocher, la mosquée, mais il n'y a pas toutes les tombes et tout ce qu'il y avait dedans, parce que la ville était quasiment à l'abandon. Hein. Il vivait des bédouins et des gens comme ça, mais ça n'intéressait personne. Hein. Et aujourd'hui, c'est le centre de toute l'attention de l'humanité. Hein. Et donc, s'il se passe un événement là-bas, vous le savez une heure après. Hein. Donc, c'est les fous qui se battent maintenant là, et les Iraniens ont déjà envoyé une bombe ou deux sur Jérusalem. Hein. Donc on ne sait pas ce qui va se passer. Si jamais ils détruisent le dôme du rocher ou la mosquée qui est à côté, ça va être la catastrophe. Hein. Donc on ne sait pas du tout dans quel. Voilà. Ben. Mais il y aura une catastrophe quand même, hein. Mais évidemment, ce sera bien pour certains, évidemment. Voilà. C'est pour ça que Jésus dit « Priez pour la paix de Jérusalem hein, ». Voilà. Mais ici, à Damas, hein, c'est vraiment là que l'histoire de l'Église a démarré. Hein, et dans cette rue qui existe encore aujourd'hui, la ville n'est pas détruite encore aujourd'hui, c'est la rue des Juifs, et qui est face à la porte, et c'est là que Paul, dans une de ses maisons, a retrouvé la vue et il s'est converti. Du jour au lendemain, sa vie a été changée. Et il était ennemi de l'Évangile, il cherchait à tuer les chrétiens. Et du jour au lendemain, il est devenu le plus grand avocat de l'Évangile. Et quelques années plus tard, il se trouvait à Antioche, ça c'est le premier voyage de Paul, Antioche de Syrie. Et de là, ils ont été envoyés par le Saint-Esprit pour annoncer l'Évangile. Il a voyagé un peu partout. Ici, Athènes, hein, la colline de Mars, où il y avait des temples à l'époque, hein, elle n'était pas comme ça. Et sur les escaliers qui sont sur le côté, là, à côté des deux arbres, eh bien, c'est là que Paul a fait son fameux discours de Actes, voilà, Actes sur l'Aréopage, c'est ça, Actes chapitre 16. Et sur le rocher, là, vous voyez la grosse pierre qui est devant, où les Grecs ont mis le discours complet de Paul en grec, en bronze. Et donc, le discours est là sur le mur. Et tous ceux qui lisent le grec peuvent lire directement le discours de Paul. Parce que pour les Grecs, ils sont très croyants, ils sont orthodoxes, mais ils sont très croyants, ils n'ont aucun doute que c'est Paul qui était là et qui a fait ce discours. Et même les marches, je les ai montées, mais les deux ou trois où ils pensent que Paul se tenait, eh bien, ils ne les ont pas changées. Elles sont toutes, elles ont 2000 ans, elles n'ont pas bougé. Pour eux, c'est sacré, hein, voilà. Et donc, mais c'est comme ça que Paul a commencé à annoncer l'Évangile et que la parole de Dieu s'est répandue dans le monde entier. Je surveille l'heure. Non, il vaut mieux que je continue. J'ai plein de choses à vous dire, mais il vaut mieux que je continue. Voilà. Ensuite, à Corinthe, hein, ici à Corinthe, où Paul est resté 3 ans et demi, et de Corinthe, et ensuite de Éphèse, un peu plus loin, de l'autre côté de la mer, il est resté là, et des gens venaient de partout pour lui poser des questions, il leur annonçait l'Évangile, et des églises se créaient dans la région d'Asie mineure et ici de Grèce, des églises se créaient un peu partout, des gens qui étaient venus le voir, qui s'étaient convertis, qui retournaient dans leur ville. Et quand il commençait à y avoir une église plus importante, Paul envoyait Timothée, il envoyait Silas, il envoyait Épaphras, il envoyait d'autres qui le suivaient, Tite par exemple. Et c'est comme ça que les premières églises se sont créées, hein, voilà, dans toute la Grèce et l'Asie mineure, qui est aujourd'hui la Turquie, hein, c'est comme ça que les églises sont créées. Les lettres de Paul ont été écrites les unes après les autres, hein. Corinthiens a été écrit depuis Éphèse, et Romain a été écrit depuis Corinthe, hein, et donc là, toujours sur des papyrus et sur des pots de moutons, c'est-à-dire des parchemins, et les deux ont cohabité pendant très longtemps, hein, et on a pu écrire ici Éphèse, hein, et écrire les Saintes Écritures. Ici Césarée, hein, où Paul a été en prison pendant deux ans au moins, et c'est là où il a écrit de trois épîtres aussi de captivité. Et ensuite, plus tard, à Rome aussi, où il a écrit des épîtres de captivité ici. En prison, d'abord il était dans une maison, et ensuite dans une prison beaucoup moins drôle là par contre, et deux fois jugé par un empereur différent. Mais quand Paul était à Rome, il était gardé par les soldats de la garde prétorienne, et comme ils étaient avec lui jour et nuit, eh bien ils entendaient l'Évangile et ils devenaient chrétiens. Et Néron était en colère de ce que ses propres soldats dans son palais devenait chrétien. Et donc, il s'est fâché vraiment avec ces chrétiens qui envahissaient tout. Mais c'est ce que Jésus avait dit, hein. Allez annoncer l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai enseigné. C'est ce qu'ils ont fait, hein. Et il n'était pas content, mais il n'a pas pu l'empêcher. Hein. L'Empire romain a disparu et le christianisme est toujours là. Hein. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et donc, les Écritures ont été écrites, lues dans plusieurs églises, recopiées. Et là encore, vous voyez, c'est le papyrus Bodemer qui est à Oxford et qui est très ancien aussi puisqu'il a entièrement en majuscule, hein, et qui date du 2e ou 3e siècle après Jésus-Christ. Et on a quelques morceaux comme celui-ci, hein, qui est un morceau de l'Évangile de Jean, qui est peut-être un morceau original, hein, du premier Évangile que Jean aurait écrit en l'an 99 ou 100. Hein, voilà. Donc c'est ce que les chercheurs, vous savez, font les datations au carbone 14 et tout ça pour essayer de trouver la date exacte, voilà. Mais ensuite, en l'an 70, Jérusalem a été détruite, tout a été brûlé, saccagé, hein, et c'est là aussi que les Esséniens ont caché tous leurs manuscrits qu'on a vus au début, hein, c'est à ce moment-là qu'ils ont caché tous leurs manuscrits à Qumran, et ils sont allés se réfugier à Masada, hein, et là ils sont morts jusqu'au dernier, hein, en l'an 70. Hein. Et donc, voilà, à cause de Titus, voilà. Et donc, C'est l'histoire qui s'est passée comme ça. Voilà. Et les chrétiens, donc, ont commencé plusieurs centaines d'années de persécution. Et donc, ils se réunissaient, comme ici, dans les catacombes de Rome. Ils ont inventé ces différents symboles, le poisson ictus et le chrisme, pour indiquer les lieux de réunion de culte. Hein. Donc c'était un code secret. On mettait ça et les gens suivaient ces symboles pour aller jusqu'au lieu de culte. Et donc puis vous aviez une autre façon de faire. Ça c'est dans les catacombes aussi. Au plafond, ils peignaient ce tableau. Voilà, les gens voyaient un berger, mais en fait c'est le bon berger. Et donc ça voulait dire qu'il y avait une église en dessous qui se réunissait le dimanche. Et qui c'était secret, mais ils se réunissaient comme ça, voilà. Et puis est arrivée la période de la persécution, hein, et donc dans l'Empire grec et même en France, hein, il y a eu des persécutions, l'Empire romain, je veux dire, et même en France, hein, des persécutions, hein, et donc ça. Mais plus on persécutait les chrétiens, plus ils se multipliaient, hein. Et même certains, vous savez, à la croix, là, celui qui était chargé de crucifier Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Alors, voilà, sûrement cet homme était le Fils de Dieu. Eh bien, ça s'est souvent passé, hein, ceux qui étaient chargés de tuer les chrétiens, ensuite ils se sont convertis. Enfin, tellement ils ont été impressionnés par la vie et le comportement de ces chrétiens qui étaient tout à fait extraordinaires. Hein, voilà. Et donc, les choses ont changé en 313 avec Constantin, ça c'est son arc de triomphe, hein, qui lui est devenu chrétien, hein, et qui a décidé que le christianisme deviendrait la religion de l'Empire romain, hein, et donc abandonner les statues, les temples, etc., de Mars, Jupiter, etc., maintenant c'est le christianisme, et donc les chrétiens sont devenus puissants dans l'Empire romain, ils étaient protégés, et donc ça a permis au christianisme de se répandre dans toutes ces différentes régions, hein, et jusqu'en Angleterre, l'Empire romain, ils ont jamais pu aller jusqu'en Écosse, par contre, hein, et puis en Afrique du Nord aussi, hein, on a plusieurs personnages dans la Bible, hein, qui viennent d'Afrique du Nord, hein, et donc des Libyens, des Cyrénéens, etc. Et donc, c'est l'Évangile a connu diffusion importante, et même, mais là, on ne sait pas si c'est légendaire ou vrai, il paraît que Thomas serait allé jusqu'en Inde. Hein. Mais si vous allez en Inde, à Pondichéry, on vous dira, voilà, Thomas a fondé l'église de Pondichéry en Inde. Voilà. Mais je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Voilà. Et ici, à Bethléem, donc ça c'est une très ancienne photographie de Bethléem, hein, du 19e siècle, hein, eh bien, un certain Hieronymus, hein, s'est mis à traduire la Bible, Ancien et Nouveau Testament. Hein, qui c'est Hieronymus? Saint Jérôme, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait comme traduction? Là? Oui, c'est quelle traduction? Ah non, c'est la Vulgate, hein, en latin, hein, et c'est celle qui est utilisée par l'Église catholique jusqu'à aujourd'hui. Hein, c'est la traduction de base de l'Église catholique. Hein, et donc nous, dès le moment de la réforme en 1517, hein, la réforme, eh bien, on a fait des traductions sur les textes originaux hébreux et grecs. Hein. Mais les Romains, les catholiques sont restés fidèles à leur texte en latin. Voilà. Où il y a quelques erreurs. C'est une bonne traduction, mais il y a quelques erreurs. Et donc, nous, on travaille toujours sur les originaux. Et donc, ça fait que nos traductions sont meilleures. Voilà. Bien que Jérusalem, etc., c'est pas une mauvaise traduction, évidemment. Mais Louis II est meilleur. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Et donc, l'Église d'Orient, hein, c'est-à-dire les orthodoxes, hein, eh bien, eux, ils sont restés fidèles aux Grecs. Hein, donc, eux, ils étaient sur les textes originaux et ils y sont encore aujourd'hui. Hein, donc, il n'y a pas de problème pour eux. Mais voilà, c'est les catholiques qui, avec le latin, se sont un peu égarés, c'est comme ça. Et donc, mais Jérôme a fait une bonne traduction et qui a été diffusée dans toute la chrétienté. Hein, ça a connu une très grande diffusion. Voilà. Et c'est le premier livre français, le premier livre imprimé, ah ben on n'y est pas encore, hein, voilà, ça c'est des codex du Nouveau Testament en grec, hein, qui sont des textes complets de la Bible en grec qu'on trouve, hein, et qu'on utilise pour la traduction. Ah oui, j'ai pas le temps de vous parler de Homère et tout ça. Voilà, on va parler des copistes, hein, ceux qui copiaient, mais je vous en ai déjà parlé, ça ce sont les Juifs qui copiaient l'Ancien Testament. Et ensuite ont été rajoutés en hébreu les points voyelles, parce qu'il n'y a que des consonnes en hébreu, hein. C'est après que les points voyelles ont été rajoutés. Voilà. Donc à l'Institut biblique, vous apprenez l'hébreu plus les points voyelles. Voilà. Voilà. Et ensuite, on a eu les moines copistes, hein, notamment ceux du Mont-Saint-Michel, hein. Et qui travaillait là, vous avez ce scriptorial qui ressemble à celui de Mont-Saint-Michel. Et comme c'était des moines, ils travaillaient sans chauffage. Hein. Et donc, la seule fois où ils avaient le droit de rentrer dans une pièce où il y avait du feu, c'était pourquoi? Parce que l'encre avait gelé. Sinon, ils pouvaient pas. Hein. Et donc, on s'y habitue, hein, parce que vous... Mais il faut quelques années pour s'habituer à l'hiver, hein, normand. Ils n'avaient pas de fenêtres non plus, hein, ils avaient que des ouvertures comme ça. Hein, donc, il faut être rustique, hein, voilà. Et donc, mais ils ont traduit. Et quand vous allez au scriptorial d'Avranches, hein, qui est en Normandie, vous avez 120 manuscrits du Nouveau Testament. De la Bible, pardon, qui sont copiés par ces moines et qui ont une valeur historique remarquable. Il y a des commentaires des Saintes Écritures, de Saint Augustin, etc. Et des textes de la Bible, des copies qui ont plus de 1000 ans. Voilà. Voilà, ce sont des copistes. Et du côté grec, pareil, hein, du côté des orthodoxes, comme ils étaient envahis tout le temps par les Turcs et par d'autres, eh bien, ils ont fait leur monastère en haut des montagnes. Hein, ça s'appelle les météores, et on peut les visiter en Grèce. Mais à l'époque, ils étaient inaccessibles. Hein, il n'y avait pas d'escalier, il n'y avait pas de marche. On montait par un panier, donc on vous faisait monter comme comme si vous étiez voilà, par une sorte d'ascenseur. Et donc, à l'intérieur, ils ont gardé les manuscrits grecs anciens et ont fait la traduction, etc. Donc ça, ce sont les météores. Voilà. Et donc la Bible, voilà, a été précieuse, de très belle qualité, mais pas du tout disponible auprès du grand public. Hein. Les gens ne pouvaient absolument pas lire la Bible. Et jusqu'à ce que... Alors, mais ça c'est Lyon, ça c'est Pierre Valdo qui... il a fait une traduction de la Bible en occitan et en provençal, oui, et donc très ancienne. Ça c'est la Bible de Vulfila, c'est de l'allemand ancien, mais j'ai pas le temps de vous en parler. Alors ça, je fais lire ça aux Allemands et ils arrivent à le lire. C'est quoi à votre avis? C'est de l'allemand qui date du 4e siècle après Jésus-Christ. Donc c'est très très ancien. Eh bien, c'est le Notre Père. Et on arrive à lire plusieurs mots là-dedans qui sont toujours les mêmes dans cette langue-là. Donc c'est intéressant. Mais il faut qu'on continue. Ça c'est pour l'anglais. C'est Bede le Vénérable qui a fait la première traduction en anglais. John Wycliffe en anglais aussi. C'est Pierre Valdo de Lyon, hein, il y a un monument à Lyon à son sujet. Jusqu'à ce qu'on arrive à l'histoire d'un fameux Gutenberg, bravo, qui a mis au point un processus d'imprimerie qui marchait, parce que plusieurs ont essayé avant lui, mais ça marchait pas. Et lui, c'est le premier inventeur qui a réussi à faire marcher le processus d'imprimerie. Et où est-ce qu'il a réussi à le faire marcher? À Strasbourg. Mais, comme il avait des dettes, les bourgeois de Strasbourg l'ont chassé, et il est parti en Allemagne, et il a imprimé ses premières Bibles en Allemagne. Et donc, si les Strasbourgeois n'étaient pas aussi amoureux de l'argent, on aurait pu dire que c'est en France que l'imprimerie a été inventée. D'ailleurs, si vous allez à Strasbourg, ils vous disent « Ah ben, c'est ici que ça a été inventé. » Eh oui, mais vous l'avez chassé. Donc, il n'a pas eu le temps de faire ses premières... j'ai oublié le nom. Ça va me revenir. C'est pas Wittenberg, parce que Wittenberg, c'était Luther. Et donc, la base du travail de Luther, c'est l'invention de ces lettres mobiles. Donc ça, c'est une casse dans laquelle se trouve chaque lettre de l'alphabet en plomb. Vous les mettez les unes à côté des autres, vous les serrez, vous mettez de l'encre dessus, avec ce système tout à fait. Et à Bayeux, on peut encore imprimer des cartes d'invitation. Il y a une imprimerie qui a gardé une imprimante allemande. Mais en général, on n'a plus le droit de faire ça parce que c'est du plomb. Donc on n'a plus le droit. Et c'est très long. Voilà. Ah ben voilà. Voilà. Dans le 15e, eh ben voilà. Alors voilà. Et donc, c'est lui qui a mis au point ce système et qui a fait son premier livre, ça a été la Bible. Et depuis Gutenberg, combien de Bibles ont été imprimées? Ah, je vous fais travailler, là. 5 milliards. Dans le monde, 5 milliards de Bibles imprimées dans le monde. Donc, il y en a pour tout le monde, des Bibles, grâce à Gutenberg. Parce qu'avant lui, la Bible existait, mais chaque fois, c'était copié à la main. Donc, ça prenait une année, voilà. Mais là, lui, il a accéléré tout ça. Et donc, grâce à lui, on a pu... Mais il y avait encore tout un travail. Lui, il imprimait les textes noirs. Après, vous achetiez par cahier. Et il fallait les amener à un enlumineur, si vous vouliez, les belles enlumineurs comme ça. Et ensuite un relieur pour les rassembler, pour faire une Bible, voilà. Et il y a beaucoup de gens qui ont acheté juste des cahiers, qui lisaient chez eux, mais ils n'avaient pas les moyens de faire toute la Bible complète, voilà. Travail magnifique, voilà. Et il en reste plusieurs dizaines dans le monde de ces Bibles. Gutenberg, et vous pouvez en acheter des copies, c'est juste 5 000 euros, c'est pas cher. C'est donné. Et donc, pas des originaux, des copies. Les originaux, c'est autre chose. Et donc, et ici, ça vient de la France, c'est la Bible polyglotte de monsieur Robert Estienne, imprimeur du roi, et dont lui-même, il a perfectionné l'imprimerie, parce que vous voyez que c'est imprimé en hébreu, en grec, en araméen, en anglais, en latin et en français. Voilà. Pas en anglais, en latin et en français. Donc cette Bible polyglotte a été imprimée avec l'accord du roi Louis XIV. Il était imprimeur du roi, voilà. Alors que les jésuites faisaient la guerre à la Bible, mais le roi, lui, l'autorisait de son côté. Donc c'était la guerre en France. C'était un travail extraordinaire. D'abord, il y a aujourd'hui, qui est-ce que vous connaissez qui sait lire toutes ces langues, et qui pourrait faire une Bible comme ça? Il y a peu de gens qui connaissent autant de langues, voilà. Donc, et puis le fameux Erasme de Rotterdam, qui est le créateur d'un mouvement philosophique qui s'appelle l'humanisme, mais c'est lui aussi qui a fait un Nouveau Testament latin-grec et qui a été à la base des traductions de Luther en Allemagne. Il a utilisé son Nouveau Testament latin-grec pour faire la Bible de Luther, qui est la base de la langue allemande, parce que les Allemands n'ont pas d'académie comme nous, et donc l'allemand, c'est l'allemand de Luther, c'est la base de la langue. Voilà. Et à la diète de Worms, hein, ils se sont réunis, et l'empereur Charles Quint le pape n'autorisait pas qu'on traduise la Bible dans la langue du peuple, et Luther a refusé leurs injonctions. Il a dit, ma conscience est prisonnière de la parole de Dieu, je ne veux ni ne peux me rétracter. Et donc, il allait mourir comme tous les pré-réformateurs, hein, Jean Hus, Savonarole, etc., ont été brûlés. Et voilà que un noble allemand l'a kidnappé et l'a enfermé dans cette chambre qui est tout en haut de son château. C'était un prince allemand, et c'est là que Luther a traduit, il était obligé de traduire le Nouveau Testament, et il a commencé l'Ancien Testament dans cette chambre aussi, et de temps en temps il sortait, vous voyez, tout en haut de la tour, là, château de la Warburg, et il sortait habillé comme un soldat pour discuter avec les gens des villages pour savoir, leur faire lire son texte, et s'ils comprenaient pas, il remontait là-haut pour le corriger, parce qu'il fallait que les gens comprennent ce qui était traduit, que ce soit une langue accessible, parce que lui, c'était un théologien, quelqu'un de très érudit, mais il fallait que la langue soit lue par tout le monde. Hein. Et ça, c'est la base des traductions bibliques encore aujourd'hui. Hein. Partout dans le monde, quand vous faites une traduction biblique, nous on en a fait une au Pays Basque, eh bien, il faut le faire lire par des écrivains, des journalistes, des cordonniers, un peu tout le monde, savoir s'ils comprennent. S'ils comprennent pas, il faut refaire le travail jusqu'à ce que tout le monde puisse comprendre la parole de Dieu dans sa langue. Voilà. Et donc c'est Luther qui a inventé cette méthode il y a plus de 500 ans et qui est toujours utilisée par les sociétés bibliques dans le monde. Et quand Luther, voilà une des Bibles de Luther, la première édition, elle s'est vendue très très vite. Hein. Et nous-mêmes, on en a une à l'Expo Bible de 1550. Remarquez que celle-ci est de 1534, c'est la première édition. Et donc, c'est tout à fait remarquable. Voilà. Il y a même eu le film hein, en 2017 hein, qui est sorti, 500e anniversaire de la Réforme, qui est raconté. L'histoire de Luther et sa Bible. Voilà, en Suisse, un certain Ulrich Zwingli. En France, qui c'est qu'on a eu à cette époque-là? Ah, ça c'est les Anglais, hein, William Tyndale, hein, qui a fait la première Bible imprimée en anglais. Il y avait des traductions avant, mais pas imprimées. Ça c'est la première en anglais, Tyndale. Et elle a été brûlée d'ailleurs devant sur le parvis de l'église Saint-Paul de Londres. Et à cause de ça, ça lui a fait tellement de publicité qu'il a pu en réimprimer. Voilà. Parce que le roi avait acheté les Bibles. Voilà. Mais malheureusement, William Tyndale a été martyrisé en Hollande, à Wittwerde, parce que il avait osé traduire la Bible. Voilà, je passe. Et ici, à Paris, hein, à la Sorbonne, qui est-ce qu'il y avait à cette époque-là? Ah, je vais vous montrer sa photo, alors. Hop. Le voilà. Ça, non. Jean Calvin. Voilà, Jean Calvin. Voilà, il était à la Sorbonne, et à cette époque-là, donc comme c'était le début de la Réforme, eh bien, il s'intéressait aux écrits de Luther, hein, et donc il lisait les écrits de Luther, le Nouveau Testament en grec, et la Réforme française a commencé avec Jean Calvin. Hein, et c'est lui qui a démarré la Réforme en France avec Lefèvre d'Étaples et plusieurs autres. Hein, il n'était pas tout seul, mais voilà. Et il a fallu qu'il s'enfuit en Suisse, hein, parce que il a été à Paris. Ensuite, ils sont allés à Meaux, le Cénacle de Meaux. Ensuite, il a fallu qu'ils aillent à Lyon. Et ensuite, finalement, ils ont parti jusqu'à Orthès, où la mère d'Henri IV, Jeanne d'Albret, les a protégés, parce que sinon, on allait les brûler aussi. Hein, voilà. Et donc, après, il a pu s'enfuir jusqu'à Genève, où il était protégé. Il a rencontré Guillaume Farel et bien d'autres. Hein. Et c'est dans ce château, c'est dans ce château que le projet a été fait de faire une traduction de la Bible en français depuis les textes originaux. Et ce sont les Vaudois que je vous ai montré tout à l'heure. Hein. Ça, c'est un monument qui rappelle cela. Sois fidèle. Eh bien, les Vaudois de ces montagnes du Vaudois qui ont amené les pièces d'or pour financer la première traduction de la Bible en français à cette époque-là. Et c'est un certain Robert Olivetan, qui était le cousin de Calvin, qui connaissait toutes les langues anciennes, qui était un érudit, mais qui était tellement humble qu'il voulait pas faire la traduction. Et quand il l'a faite, finalement, puisqu'on l'a payé pour ça, nous, on a un facsimilé de la Bible de Robert Olivetan. Il n'a signé son nom nulle part. Voilà. Et donc, tellement il était humble. Voilà. Mais on sait quelle est sa traduction parce que à la fin de chaque chapitre, chaque livre, vous avez la fin du livre qui se finit en flèche. Hein, donc on sait que c'est sa traduction à lui. Et donc je vais vous en lire un peu. Hein. Voici mon fils bien-aimé, auquel ai pris mon bon plaisir, écoutez-le. Voilà. Ça c'était le français à cette époque-là, il y a 500 ans. Voilà. Et donc, c'est Jean Calvin qui a révisé plusieurs fois cette traduction, et c'est devenu la Bible de Genève, et à l'Expobible, on a une Bible de Genève de 1604, hein, et avec les cantiques, le psautier de la Réforme de Théodore de Bèze qui est dedans. Hein. Et donc ça, c'est l'origine de la Bible en français, hein, c'est ça, l'origine, et c'est le début de la Réforme en France. Malgré toutes les persécutions qu'il y a eu, ça a pris à ce moment-là. Alors il y a eu d'autres traductions, David Martin, 1744, David Osterwald, 1877, et Jean-François Osterwald, pardon. Et plus tard, en 1870, Jean Calvin et deux autres ont fait des traductions du Nouveau Testament. Pas Jean Calvin, oh là là. Il va falloir que je m'arrête parce que je fatigue. Hein. Louis II, hein. Et voilà. Et deux autres hein, ont fait des traductions de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et c'est là que on a commencé à diffuser à grande échelle en France la parole de Dieu. Et c'est Louis II qui a été la plus populaire et qui est encore la plus populaire jusqu'à aujourd'hui. Hein, voilà. Suisse Louis II, voilà. Voilà. Et même le président Sarkozy est allé à la... il aurait dû peut-être la lire un peu plus. Il est allé à... Comment ça s'appelle? Le musée du désert. Hein, et là, tout est bien expliqué. Là, c'est le dernier président qui est allé là-bas pour voir l'histoire du protestantisme. Hein, voilà. Mais, et oui. Voilà, voilà. Et donc... Les femmes étaient envoyées à la tour de Constance et les pasteurs étaient envoyés aux galères. Hein. Ça, c'est la galère du roi, la réale, et ils avaient une espérance de vie de 3 ans maximum, hein, tellement ils étaient maltraités. Et donc, beaucoup de pasteurs français sont partis à Genève et ailleurs. Hein. Il y a eu une fuite dans beaucoup de pays à cause des mauvais traitements en France. Et lorsqu'il y a eu la révocation de l'édit de Nantes, que les Bibles étaient brûlées, etc., eh bien, les protestants français sont allés en Angleterre, en Allemagne, en Hollande, plus tard aux États-Unis, plus tard en Afrique du Sud, et ils ont dans ces pays-là, ils ont toujours leurs églises et ils vont très bien. Mais on a perdu tout ça en France, c'était une grande perte pour la France, voilà. Alors on va s'arrêter là, chers amis, avec cette conclusion qui date de la Réforme. Plus à me frapper on s'amuse, tant plus de marteaux on y use. Hein, c'est l'histoire de la Bible. Hein, tous ceux qui ont combattu la Bible et qui ont voulu la détruire, eh bien, ont été détruits par elle. hein, tellement la parole de Dieu est puissante, hein, et est impossible à détruire, hein, malgré tout ce que nous on a connu au XXe siècle, le communisme, hein, et qui encore en Corée du Nord essaye de détruire la parole de Dieu, mais il n'y arrive absolument pas, hein, parce qu'elle est plus puissante et elle continue à se diffuser, à se répandre. Et maintenant, c'est dans les téléphones. On arrive à même dans les pays arabes, tous les chrétiens, eh bien, ils ont la Bible dans le téléphone. Alors caché, hein, il y a une façon de le cacher qui fait que quand vous regardez, vous trouvez pas la Bible, mais elle est dedans. Hein, et donc avec des commentaires, des explications, etc. Et donc la parole de Dieu est invincible. Hein, voilà. Et si vous allez à l'Expo Bible, vous verrez même la Bible sur microfilm qui a été envoyée dans l'espace dans les années 70 et qui voyage encore dans des satellites dont l'un d'entre eux, Voyageur 2, vient de quitter notre galaxie, hein, la Voie lactée. Elle est en train d'entrer dans l'espace intersidéral. Ça a été envoyé à l'époque parce qu'ils voulaient trouver des extraterrestres. Hein. Ils en ont pas encore trouvé, mais au cas où, ils pourraient lire la Bible. Et Ruin aussi, il en avait amené, tout à fait, sur la Lune, absolument. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention, hein, et de votre patience, hein, et donc, que le Seigneur vous bénisse, et c'est un avant-goût de...